Il est écrit chasser, c'est-à-dire il n'y a pas de vav après le resh. Normalement, il devrait y avoir un vav après le resh pour le pluriel. Mais il n'y en a pas. Donc, il y a deux problèmes. C'est comme si on avait dit, donc, que soit SOIT des luminaires, donc le verbe au singulier et le sujet, enfin le complément, enfin, non, enfin le sujet en question, ce sont des luminaires, et les luminaires sont écrits chasser. Il manque le pluriel en quelque sorte dans le. Mais ça, c'est juste une première remarque. Bon, c'est pas de ça que va parler tout de suite le Midrash, mais ça va avoir une importance par la suite. Alors, c'est un relativement long texte. Rabbi Yochanan Patach. Rabbi Yochanan, il commence le Midrash, comme très souvent, avec un verset des Teilim. Et le verset des Teilim dit Asa Yareach la Moadim. Le Moadim. Il a fait la lune pour les Moadim. Moadim, c'est a priori les rendez-vous qu'on a avec Hachem à des dates fixées par le calendrier. C'est-à-dire, le grand représentant des Moadim, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Et donc, la lune est là pour qu'on fixe ces rendez-vous. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la lune? Parce que ces rendez-vous sont à date, par exemple, le Pessah et Sukkot sont le 15 du mois, mais pour savoir quel jour est effectivement le 15 du mois, il faut savoir quel a été le premier jour du mois. Le premier jour du mois, ce sont les Bnei Israël qui vont le fixer en regardant la lune. La référence pour cela, ce sera la lune. Et donc, ultimement, les fêtes, les Moadim, d'accord, dépendent de la lune. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Enfin, il commence par ce verset-là. Donc, il ouvre la séance, puis ensuite, curieusement, on nous répète. Amar Rabbi Yochanan lo nivra le ha'ir el agalgal chama bilvat. Maintenant, il pose une question. Les meorot sont présentés dans la Torah pour éclairer. Et Rabbi Yochanan dit, pour éclairer, seul le soleil va éclairer. Alors pourquoi, d'après cela, lama nivret levana? Alors pourquoi est-ce que la lune a été créée? La Moadim, Kidei Lechadesh Becheshbona, pour pouvoir renouveler avec c'est un compte qu'on fait d'après la lune, Rashi Chodashim Veshani. Rav Shila Dekvar Temarta, Rav Shilo qui venait du. C'est un village qui s'appelle Kfar Tzmarta, le Shem Rabbi Yochanan, toujours encore, maintenant c'est le Shem au nom de Rabbi Yochanan, toujours. Il dit ça et il dit Afalpi she'asa yareach la moadim, Shemesh yada mevo. Bien que Hashem ait fabriqué les Moadim, pardon, la Levana pour les Moadim. Et malgré cela, ça va quand même dépendre du soleil. Pourquoi? Parce que il dit que le soleil, yada me vaut. Le soleil, c'est quand il entre. Ou il sait son entrée. Bon, c'est un drôle de verset, drôle d'expression, mais il l'explique. Mishemesh yada mevo. Du soleil, grâce au soleil, on sait quand la lune est entrée. En d'autres termes, Ein monin l'alvana, ela mishe tishka achama. On prend le compte de la lune uniquement après le coucher du soleil. Vous rappelez peut-être voir ce qu'il en est. D'accord, c'est, voilà. Donc, quelque part, il est en train de dire que le Rosh Chodesh la nouvelle lune n'est prise en compte qu'après le coucher du soleil. C'est-à-dire que on voit la lune alors que le soleil n'est pas encore couché, il fait encore clair. On voit déjà la lune. On n'en considère pas que c'est la nouvelle lune. Et c'est seulement quand le soleil sera couché qu'on comptera la nouvelle lune comme nouvelle. Donc, quelque part, de ce fait, le soleil, lui aussi, il est partie prenante dans la définition des Moadim. Alors maintenant, il y a des gens avec des drôles de noms. Yussi Chavra. Donc voilà, tout le monde s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Yussi Chavra. Le Shem Rav Brechia, Amar. Areu Omer. Il dit, mais c'est marqué dans le Passouk que Vayis'u Miramses Bachodesh Arishon. Ils ont, les Bnei Israël, qui s'étaient rassemblés à Ramsès, ils se sont mis en marche le premier mois, donc le mois de Nissan, le 15, le Hamisha Asar la Chodesh, le 15 du mois. C'est la sortie d'Égypte, c'est le 15 du mois. Ve'im l'alvana atamone, et si tu comptes effectivement le fait d'avoir vu la lune, on n'aurait que 14 couchers du soleil, donc on aurait vu la lune, on la voyait avant, déjà avant le coucher du soleil, et il n'y en a eu que 14. Par conséquent, on est bien obligé de dire, puisqu'on dit que 15, que c'est le 15, qu'on ne prend en compte la nouvelle lune qu'à partir du coucher du soleil. Ein monin l'alvana ela mishita tishaka achama. Rabbi Azaria b'shem Rav Chanina amar. Donc, lui, il parle et il semble qu'il commence un peu comme Rabbi Yochanan. Et il dit, lo nivra lehair ela galgal chama bilvad. Le seul qui a été créé pour illuminer, pour éclairer, c'est le soleil. Azimken lama nivret levana. Du coup, se pose la question à quoi sert l'alvana. Ela melamed. Ça vient enseigner la chose suivante. Alors, vous voyez, quand Rabbi Yochanan avait posé la même question, il avait donné comme réponse. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? La manivret l'alvana, la moadim. Kedel chadesh bechesbona, roshe chodashim eshanim. Et lui, au nom de Rav Chanina, il dit, che safa kadosh baruchu, che atidim ofde kochavim la sotan elaout. Kadosh baruchu a vu que les idolâtres allaient idolâtrer la lune et le soleil. Amar Kadosh Baruch Hu. Alors Hashem a dit, Ma im Mishen Shnaim Makrishim Zedze. Quand j'ai maintenant deux éléments, et ils les adorent tous les deux, alors qu'en réalité, ils se contredisent l'un l'autre, puisque l'un est de jour et l'autre de nuit. Donc, quelque part, on voit bien qu'ils n'ont pas un vrai pouvoir, puisqu'il n'y a pas de soleil la nuit, il n'y a pas de lune, en gros, il n'y a pas de lune dans la journée. Donc, ils n'ont pas un vrai pouvoir. Et néanmoins, les gens les prennent pour des divinités. Ilu ayu echad, si je n'avais qu'un seul luminaire, kama ve kama, à plus forte raison, un luminaire qui serait un luminaire qui éclaire de jour et de nuit, c'est sûr qu'ils en auraient fait une idole. Puisqu'ils font la bêtise de prendre pour une idole quelque chose qui n'a pas le pouvoir sur la moitié de la journée. Et par conséquent, il était nécessaire d'avoir la lune pour qu'on n'idolâtre pas, pour éventuellement ne pas idolâtrer le soleil, mais en fait, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, si je n'avais créé qu'un seul que le soleil pour éclairer, alors c'est sûr qu'ils auraient pratiqué l'idolâtrie. Alors, en vérité, j'ai fait ce qu'il faut pour qu'ils ne pratiquent pas l'idolâtrie, mais ça n'a pas marché, quoi. Ça ne les a pas empêchés, la contradiction ne les a pas empêchés de les idolâtrer tous les deux. Rav Brechia, Beshem Rav Simon Amar, Shnem Nivreu Lehaïr. Alors lui, il pense non. En fait, les deux Meorot ont été créés pour illuminer. Shenemar Vehayu Livorot. C'est écrit dans le Passouk. Et ils seront des luminaires. Vaiten otam Elokim birkia shamaim vayu leotot. Et tous les deux sont là pour illuminer. Et Hachem les a placés dans les cieux, dans le rakia des cieux, donc vayu leotot. Et en plus d'illuminer, ils vont servir de signes. De signes, c'est quoi? Elo shabbatot. Pour le Moadim, Elo Shalosh Regalim. Ça va servir de signe. Le Hot, ce qui est un Hot, c'est Shabbat. Shabbat, qui Hot, hi, on dit dans le Shamo. Le Shabbat, c'est un Hot, c'est un signe entre HaKadosh Baruch Hu et l'Ebnei Israël. Ça, c'est les Shabbatot. Ou le Moadim, ils servent aussi pour déterminer les Moadim, Elo Shalosh Regalim. C'est les trois fêtes de pèlerinage, Moadim. Ou les Yamim, et pour les jours, Elo Rashi Chodashim. Ou les Shanim, Ze Kiddush Shanim. Bon, c'est la sanctification des années. Donc, la sanctification des années, en réalité, c'est a priori, c'est pour fixer les années en bolismique, mais on peut aussi dire c'est pour fixer Rosh Hashanah, je ne sais pas.
Puis la Birkat Hamazon, tous les 28 ans.
Oui, mais c'est ça, donc c'est ça, personne, je crois, ne le dit parce que c'est pas suffisamment fréquent, quoi. Probablement, ou c'est pas. Je sais pas, effectivement, ça m'était aussi venu à l'esprit, mais visiblement, je vois pas que ce soit dit, peut-être, j'ai pas bien vu, mais. Voilà. Donc voilà notre premier midrash sur le quatrième jour, c'est-à-dire sur le jour des luminaires. Alors bon, ça va peut-être un peu plus vite que les autres. Quel est le problème ici dans ce Midrash? Le Midrash, c'est évidemment le problème de, justement, de cette, de ces Me'orot, au pluriel. Mais comme je vous ai dit, on peut déjà entendre qu'il y a un problème dans la façon d'écrire Me'orot. C'est un pluriel, mais il est écrit sans les signes distinctifs du pluriel. Et puis Yehi, c'est un signe. Donc il y a cette idée que, comme si on voulait dire que normalement il devrait y en avoir un seul. Un seul Maor. Mais il y a des problèmes. Alors, Rabbi Yochanan, il commence par dire, ben, en fait, il n'y en a qu'un seul. Au sens de le mot de Maor qui parle de lumière, bon, ben, le seul illuminant, dit Rabbi Yochanan, c'est le soleil. Et pourquoi avoir... Et donc, du coup, lui est plus bas, Rabbi Hanina, ils disent tous les deux, en vérité, il n'y a que le soleil qui sert à illuminer. Ce que nous, on dira, le seul qui a une vraie lumière, c'est le soleil. La lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc, on ne peut pas dire qu'en tant qu'éclairant, elle éclaire de son propre chef. Son éclairage, c'est la façon dont le soleil éclaire la nuit, quoi. Quand le soleil éclaire la nuit, ben, il passe par le biais de la lune. En fait. Et donc, on pourrait penser que la lune n'a aucune importance en tant que source de lumière. Alors, du coup, la question se pose, mais pourquoi a-t-elle été créée? Alors, il y a deux réponses. Une première réponse, celle de Rabbi Yochanan, Moadim. Pour les Moadim, bon, c'est le fait de fixer le Rosh Chodesh d'après la lune, c'est ce qui va entraîner la fixation des Moadim. Donc c'est comme ça qu'il l'entend. Alors maintenant, il y a quelqu'un, il y a ce Rabbi Shilo, au nom de Rabbi Yochanan toujours, il dit, mais la lune, elle n'est pas seule à l'œuvre dans la fixation des Moadim. Étant donné qu'on ne va valider la nouvelle lune que si elle a été observée après le coucher du soleil. Par conséquent, le soleil est partie prenante de cette manière-là à la fixation des Moadim. Puisqu'il est, c'est lui qui permet de compter la nouvelle lune, de prendre en compte la nouvelle lune. Donc on pourrait dire que le soleil est prépondérant, puisque lui, il agit comme Maor, et il agit aussi dans la fixation des Moadim. Et donc, il y a une opinion qui vient expliquer ce que ça veut dire, cette histoire d'attendre obligatoirement le coucher du soleil pour valider la nouvelle lune. Ben c'est validé parce que la Torah nous dit de la sortie d'Égypte, qui a eu lieu le 15. Or, la lune, si c'était comme ça, il y avait seulement 14 coucher de soleil. Et par conséquent, on voit bien là que, puisqu'on appelle ça le 15, c'est bien qu'on a dû attendre le coucher du soleil pour valider. Il faut 15 couchers de soleil aussi, quoi. Donc, ça vient à l'appui de la thèse que, effectivement, le soleil ne vient pas que comme luminaire, mais il vient aussi comme référence pour la fixation des moadim. Et la deuxième réponse à la question à quoi sert la lune, puisqu'elle ne sert pas à éclairer, alors, la lune va servir, enfin, elle devrait servir, en fait, à lutter contre l'idolâtrie. Mais c'est intéressant parce que, en même temps qu'on nous explique ça, on dit que ça n'a pas marché. Parce qu'Hachem dit, puisque même lorsque j'ai deux êtres, deux astres, qui se contredisent l'un l'autre, ça n'a pas empêché les idolâtres de les idolâtrer. S'il n'y en avait qu'un seul, et d'après ce qu'on a vu, si ça sert seulement à éclairer, on n'avait pas besoin d'autre chose que le soleil. Mais on ne pouvait pas créer que le soleil, parce que sinon, c'était un piège trop important pour les idolâtres, quoi. Alors Hachem a fait en sorte que de les aider à ne pas diviniser le soleil. Et visiblement, ça n'a pas marché. Donc si on considère que le soleil sert à éclairer, et qu'on a besoin de justifier la création de la Lune, alors on la justifie de deux manières, en disant qu'elle vient pour les Moadim, mais vraiment, elle est à ce point secondaire quand même par rapport au Soleil, parce qu'on pourrait dire, voilà, c'est aussi important d'éclairer que de venir pour les Moadim. Mais en fait, la Lune est en cela quand même inférieure au soleil, dans la mesure où même ce qu'elle fait, elle ne le fait qu'avec l'aide du soleil. De la même manière qu'elle éclaire avec l'aide du soleil, de la même manière, elle permet la fixation des moadim avec l'aide du soleil, puisque on ne valide les nouvelles lunes qu'après le coucher du soleil. Donc c'est, si vous voulez, c'est une façon de dire qu'en réalité, l'important, c'est le soleil, puisqu'il est, lui, dans les deux fonctions, à la fois illuminer et aussi participer à la fixation des moadim. Mais c'est intéressant que le Rabbi Yochanan ne dit pas du tout que la lune participe aussi à l'illumination. Elle, de nuit, elle reflète la lumière du soleil. D'accord, mais elle est vraiment, elle aide aussi le soleil à être un vrai luminaire. Mais ça, Rabbi Yochanan, semble-t-il, il n'en parle pas. On a l'impression que c'est plutôt un plaidoyer pour le soleil, pour l'importance du soleil au détriment de l'importance de la lune. Donc c'est vraiment, l'accent est vraiment mis sur le singulier qui s'exprime de deux manières, par Yehi et par l'absence du Vav dans Meorot. Maintenant, la lecture que fait Rav Hanina, c'est de dire que la lune, elle est au service du soleil. Plus exactement, elle aide à ce que le soleil ne soit pas déifié, quoi, quelque part. Enfin, elle est censée aider. Ça veut dire le soleil, bon, c'est lui indiscutablement qui éclaire, on n'en discute pas. Et la lune, mais semble-t-il, d'avoir donné ce pouvoir d'éclairage au soleil, la lumière, c'est tellement fondamental. La lumière du soleil, elle est une espèce d'écho du or initial, original. Le or qui est la première chose qui a été créée. Bon, voyez, or, c'est pas la lumière du soleil, évidemment. Cette lumière-là, c'est une lumière différente, mais elle est, dans ce monde-ci, elle est représentée, elle est remplacée par la lumière du soleil. Donc le soleil joue un rôle absolument fondamental. On n'en parle pas ici de tout ce que nous savons du soleil. La chaleur, etc., toute la centralité du soleil pour la Terre, toutes les fonctions du soleil sont absolument c'est pas simplement, ça vient éclairer ici, il faudrait l'entendre à tous les sens du terme, quoi. Ça rend la vie possible, quoi. Bon, si on réfléchit avec ce qu'on connaît aujourd'hui sur le soleil, c'est le rôle. On comprend très bien qu'on ait envie de diviniser le soleil. Il est tellement important. Bon, c'est sans soleil, on voilà. On est un élément de ce système du soleil. Et le soleil est absolument central, ça va sans dire, mais absolument fondamental pour nous, quoi. On n'existe pas sans le soleil. Donc, Akadosh Baruch Hu a pris le risque, en quelque sorte, de déléguer au soleil une fonction tellement importante, la fonction lumière, semble-t-il, qui est absolument toute l'énergie et tout ce que vous voulez, que bon, la place du soleil est tellement centrale qu'on ne peut pas, semble-t-il, ne pas l'idolâtrer, quoi. Et Akadosh Baruch Hu a visiblement, il a créé la lune. Et il a fait en sorte que la lune apparaisse comme ce qui éclaire la nuit. C'est-à-dire apparaît comme un pouvoir qui fait pièce à un pouvoir absolu du soleil. Bon, c'est la nuit, c'est le soleil, c'est la lune qui éclaire. Ah, elle a sa lumière du soleil, bon, peu importe. En tout cas, nous, ce qu'on vit, c'est la lumière de la lune. Et donc, ça vient enlever, quelque part, la centralité du soleil, en tout cas en tant que lumière. Et puisque ça enlève un peu de cette centralité, ça le rend moins divinisable. Hachem dit, j'ai mis ici une contradiction, enfin, j'ai mis deux luminaires au lieu d'un seul pour que on se trompe pas, mais les idolâtres, ça les a pas empêchés de se tromper. Donc imagine ce qui serait passé si je n'avais pas créé la lune. Donc la lune a été créée seulement par rapport à l'idolâtrie. Hachem a, il a vu que ça veut dire qu'Hachem a vu que les idolâtres allaient diviniser le les Meorot. Donc celui qui éclaire, celui qui apporte la lumière, quelque part, il est un très bon candidat pour l'idolâtre, pour être une idole, pour être divinisé. C'est un peu réminiscent de... En vérité, dans l'ordre, ça va venir plus tard, mais quand Kadosh Baruch Hu a créé l'être humain, une des raisons pour lesquelles il a séparé l'homme et la femme, parce qu'il a dit que moi, je suis seul dans le monde d'en haut, et l'homme est seul sur la terre, donc il va être divinisé. Il est un. Et donc, pour qu'il ne soit pas divinisé, il faut en faire un deux, faire apparaître le deux. Et ici aussi, c'est comme si la démarche ici, c'est une démarche qui a lieu avant, mais qui ressemble beaucoup à la création de la femme. C'est comme si la lune était la femme pour que l'homme, enfin, c'est pas l'homme en réalité, parce que c'était l'homme et la femme à la fois, mais pour que le soleil, enfin, ne devienne pas une divinité concurrente d'Hachem, si on peut parler comme ça. Et c'est intéressant parce que, de la même manière que la femme apparaît comme une partie de l'être qui risquait d'être divinisé, la lune apparaît aussi comme, dans sa lumière, une partie de la lumière de l'être qui risque d'être divinisé. Elle n'est pas issue du soleil. Je ne suis pas en train de dire que la lune est issue du soleil. Mais en tant que luminaire, elle, sa lumière, elle vient du soleil. Donc c'est une partie du soleil qui est là, c'est de sa lumière, qui est là pour empêcher qu'on le déifie. De la même manière qu'une partie de l'être humain est là pour empêcher qu'on déifie l'être humain en question. Bon, sauf que chez l'homme, c'est plus sophistiqué puisque l'être humain initial, il n'est plus là du tout. Sauf sous la forme du nom. Continue de dire Adam pour le mâle, alors que initialement c'était le nom qui était commun aux deux parties, hein, au mâle et à la femelle. Zachar Onkeva Abraham, il s'appelle Adam. Donc là aussi, on a ce problème que, même qu'on a après l'humanité qui s'appelle l'homme avec un grand H et puis l'être. Et le mâle avec un petit H, c'est toujours c'est les mêmes noms qui en fait déterminent, enfin, désignent des choses complètement différentes en réalité. Et c'est un peu ambigu, quoi. Donc ça, c'est le problème de ces deux luminaires qui en fait ne sont qu'un, si on peut parler comme ça. Alors comment est-ce qu'on a, comment le 2 n'est pas un vrai 2, mais simplement quelque chose qui n'est pas un 1 complet, simplement l'essentiel, c'est que ce ne soit pas un 1, que le soleil à lui tout seul ne peut pas déterminer les moadim. Bon, ça va se déterminer avec les phases de la lune, mais qui seront prises en compte seulement si le soleil se couche. Et là aussi, la lune ne sert qu'à empêcher la diminution du soleil. Mais elle était faite pour ça, mais ça n'a pas marché non plus. Alors, jusqu'à présent, on a vu toujours une lecture de Yehi Me'orot qui met l'accent sur le 1, qui n'a qu'un seul luminaire au sens. L'autre n'illuminant pas vraiment. Alors maintenant, la fin du Midrash, c'est Abrechia au nom de Rab Simon. Il dit non, tous les deux ont été créés pour illuminer. C'est marqué Vayulim Orot. Là, du coup, maintenant, on n'a pas dit Yehi, mais c'est Vayu, c'est un pluriel. Puis ensuite, Vayeten Otam Elokim Birkia Shamaim, Vayu, toujours maintenant, toujours au pluriel. Le Otot, là effectivement, Otot, ça devrait aussi avoir un Vav à la fin, enfin entre les deux Tav. C'est un vrai pluriel. Mais peut-être que, en vérité, c'est un signe, comme c'est que pour le Shabbat, c'est les Shabbatot, mais c'est le Shabbat, alors peut-être, c'est pour ça qu'on a laissé une forme qui ne dit pas clairement le pluriel, quoi. Par contre, Moadim, c'est un vrai pluriel parce que ça correspond au Shalosh Regalim. Et Yamim, ça correspond à Roché Chodashim. Et Shanim, à Kiddush Shanim. Donc, les Me'orot, d'après cela, pour les deux derniers, pour Abrechia au nom de Rab Simon, les deux illuminent. Et les deux servent de Otot pour Moadim et pour Yamim. Alors là, c'est un peu, on pourrait dire, si on voulait dire un peu comme on l'a dit au début, Vehayu le Otot, c'est-à-dire ils sont tous les deux là en train d'illuminer, et on parle du pluriel pour toutes les autres choses, mais en réalité, il y en a, c'est seulement la Lune qui va servir à ça. Le soleil par rapport à Shabbat, le Shabbat il commence aussi seulement avec le coucher du soleil, mais c'est un nouveau jour en fait. Mais bon, on peut dire c'est le coucher du soleil, là on a le soleil, effectivement, qui joue un rôle. Et en quoi la lune joue-t-elle un rôle par rapport au Shabbat? C'est un peu compliqué, la lune par rapport à Shabbat, on ne sait pas très bien quelle fonction elle a. Ça commence au coucher du soleil, ça n'a a priori pas de raison, c'est pas lié vraiment à la au Shabbat. Shabbat, donc il faut dire ici, ils sont tous les deux occupés à être des signes, chacun pour soi en quelque sorte. Ils sont pas ensemble dans tous les signes, mais dans les signes, dans l'ensemble des signes, ils sont ensemble. Le soleil pour les Shabbatot, la lune pour les Moadim et pour les Rosh Chodashim et pour Rosh Hashanim aussi. Donc le soleil et la lune. Bon, évidemment, la question qui se pose, c'est en quoi est-ce que ça nous concerne? Qu'est-ce qu'on nous dit qui nous concerne, nous, ici, dans ce Midrash? Dès qu'on discute en réalité sur premièrement d'abord sur le problème de la lumière, qui a l'air d'être fondamental, c'est la notion de lumière, parce que la lumière, c'est ce qui éclaire dans tous les sens du terme, et que, semble-t-il, rien ne commence sans cela. Et là, justement, il y a un problème de est-ce qu'on est dans le 1 ou dans le 2, en fait. Alors, ça a été créé comme 2, parce que dans ce monde-là, on est dans le 2, mais peut-être que ça a été créé dans le 2, mais si on y regarde un peu plus près, on s'aperçoit du 1. Il y a un peu du 1 qui est dit de façon allusive, si on peut parler comme ça, dans le texte, que ce soit sous forme de Yim Horot ou le fait que c'est le soleil. Mais concrètement, si on prend la lumière, qui est absolument fondamentale, c'est le soleil. Après, si on entre dans si vous voulez, a priori, le soleil dans le début du Midrash, dans la quasi-totalité du Midrash, sauf la toute dernière partie, le soleil n'est là que pour éclairer, en réalité. Essentiellement pour éclairer. Alors, pour Rabbi Yochanan, le soleil éclaire, mais il est aussi partie prenante. C'est lui qui permet, mais par son absence, il permet à la levana de jouer son rôle. D'accord? La nouvelle lune ne joue son rôle que lorsque le soleil s'est couché. Donc, le soleil, ici, participe à la fixation des moadim, si vous voulez, mais on pourrait presque dire par son absence. Mais elle est fondamentale, son absence. Quelque part, c'est parce que la Lune est susceptible d'être vue même en présence du Soleil, que c'est comme si on devait dire le Soleil ne tolère pas cette Lune-là qui n'a pas de lumière propre. Elle ne peut pas jouer un rôle tant que le Soleil, avec la lumière, qui est aussi la lumière dont dispose la Lune, donc la Lune ne va pas pouvoir jouer son rôle tant que le Soleil ne lui permet pas de le jouer, en fait. C'est-à-dire le 2, en fait, n'existe que parce que le 1 lui permet d'exister. Notre émouna, c'est une émouna dans le 1, Hachem et Echad. Mais nous vivons dans le 2. Et il faut bien comprendre que le 2 n'existe que parce que Hachem permet à ce 2 d'exister. Ce n'est pas que le 2 existe par lui-même. Parce qu'effectivement, si on s'imagine que le 2 pourrait exister par lui-même, alors ça, du coup, ça serait... Ça donnerait une idolâtrie, mais si on dit que le 2 existe par lui-même, comme il existe seulement sous forme d'opposition, le 2 existe seulement quand les deux éléments, les 2 fois 1, s'opposent, jour et nuit. Et ça, en réalité, on voit bien que c'est une erreur, puisqu'il ne s'agit pas d'un vrai pouvoir, c'est un pouvoir partiel. Pouvoir sur le jour, mais pas un pouvoir sur la nuit, ou bien un pouvoir sur la nuit, qui n'est pas un pouvoir sur le jour. Donc il y a ce rôle, en fait, du un qui permet aux deux d'exister. Mais d'un autre côté, le 2 est là pour que le 1 ne soit pas divinisé. Bon, ça ne marche pas, c'est vrai, mais il est néanmoins là pour ça. Pour que les gens, pour montrer que l'idolâtrie est une erreur, si on veut, puisqu'il est en train d'idolâtrer quelque chose qui n'a pas un pouvoir absolu. Que même dans la journée, entre le jour et la nuit, on voit très bien que ni le soleil ni la lune n'ont un pouvoir sur la totalité de la journée. Puis ensuite, il y a une autre opinion qui dit non, on peut considérer le jour et la nuit comme étant, enfin, considérer les deux mehorot, en fait. Elles sont de plein pied, en réalité. Parce qu'il semble, dans le texte de la Torah, il semble que la lune et le soleil étaient deux luminaires égaux. Et c'est parce que la lune a dit que deux rois ne peuvent pas régner ensemble. Alors Hachem a dit, ok, alors diminue-toi, ne sois plus reine, ne sois plus roi, quoi. Donc on a l'impression que ce rôle secondaire de la lune, qui n'est pas simplement parce qu'elle est devenue plus petite, mais parce que du coup, elle est devenue dépendante du soleil, en fait, il y avait un vrai deux, en fait, au départ, pour lutter contre l'idolâtrie. Un deux, où les deux étaient de plein pied, en fait. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, ce deux, où ils étaient de plein pied, mais où, quelque part, la lune aurait éclairé la nuit, mais de sa propre lumière. Et le soleil de sa propre lumière du jour. Mais comme ça, même ça, ça n'a pas suffi, quoi. Ça n'a pas empêché les gens de diviniser. Et puis, ils n'ont pas seulement divinisé. À partir du moment où ils ont divinisé dans le 2, ils ont divinisé avec toutes les étoiles. Ils ont pris d'autres étoiles qui servent aussi de divinité. Rav Brekia, il pense que non, tous les deux vont illuminer, peu importe, Meorot. Et puis ils ont tous les deux rôles, en fait. Un rôle d'illuminer et un rôle de marquer le temps, c'est-à-dire en fait un rôle de marquer les relations entre Hachem et le monde. Parce que c'est les relations entre Hachem et le monde représenté certaines fois par le clan d'Israël. Mais dans le Shabbat, il est indépendant du clan d'Israël. C'est le clan d'Israël qui pratique le Shabbat, mais le Shabbat, il n'est pas déterminé par les Bnei Israël. Donc les deux ont tous les rôles, en fait. Quelque part aurait Kadosh Baruch Hu créé les deux Meorot tout à fait à la même hauteur l'un que l'autre. Donc pour nous, c'est cette idée que, au fond, pour qu'il n'y ait pas de risque si on est dans cette optique de l'idolâtrie, de voir que les deux ont tous les deux un pouvoir et que ce pouvoir des fois se contredit, etc., ça devrait suffire, mais ça ne suffit pas pour empêcher l'idolâtrie. Mais dans le monde, Akadosh Baruch Hu a donc mis les choses de telle sorte qu'il n'y a jamais... Ce n'est pas une ambiguïté qui doit être corrigée, ce n'est pas un qui est trop fort qui doit être corrigé par l'adjonction du 2, qu'il a mis le 2 directement dans le monde. Donc, il n'y aurait donc pas du tout dans le monde de traces du 1. C'est entièrement notre émouna, mais ce n'est absolument pas visible, en tout cas. Il n'y a pas de traces visibles du 1. C'est une émouna pure. Sans que ça s'appuie sur quelque chose d'autre que notre réflexion que Hachem est le maître, c'est tout. Il est le maître, un point c'est tout, et ça n'apparaît pas, si on veut, dans la construction du monde. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, avec les Meorot, ça n'apparaît pas du tout. Le deuxième paragraphe. Lecha yom af lecha laïla. Quand on dit ça, ça commence à chanter un peu comme dans Pessah. Ouais. Donc, c'est un Tehilim. Il dit donc, Lecha, c'est à toi le jour, à toi, Gam, également la nuit. C'est-à-dire, Lecha yom. À toi le jour. Le jour, il est Mekales. Le Chayom Mekales. Toi, enfin, c'est à toi que le jour dit la louange. C'est à toi que la nuit dit la louange. De la même manière que le jour Birshutra, le jour est en ton pouvoir. Afalaïla birshutra. La nuit également est dans ton pouvoir. Besha'a, Shata oselanu nissim. Quand tu fais pour nous des miracles. De jour. Lecha yom, non pardon, tu me fais aussi, le shah she'ata, osé l'anonissim bayom, lecha yom, le jour est à toi, ou le shah she'ata osé l'anonissim balayla, af lecha laïla. Quand tu fais des miracles pour nous de jour, alors le jour est à toi. C'est-à-dire, nous te louons, parce que ce psaume de Tehilim, Lecha yom af lecha laïla, c'est bien sûr c'est des louanges. Les louanges t'appartiennent. Besha she'ata oseh lanu nisim bayom, anu omrim lefanecha shira. Tu fais les miracles pour nous de jour. Nous disons Shira, nous chantons. Ou Beshache Ata Osela Nunissim Balaila, Anu Omrim le Fanecha Shira. Idem. Asita maintenant, ça, maintenant, tu nous as fait. Tu as fait pour nous des Nissim Bayom, tu as fait pour nous des miracles de jour. Et nous avons dit pour toi une shira de jour. On verra si on va préciser effectivement de quelle shira. Ici c'est dans le Shoftim, donc c'est Dvora. C'est la shira de Dvora. a priori. Vatashar Dvora ou Barak ben Avinoam. Donc, Dvora et Barak ben Avinoam ont chanté. Asita lanu nisim balayla, ve'amarnu lefanecha shira balayla. Ashiri elachem kelel yitgadesh chag. Ça, c'est la Shira Tayam. Lecha nae lomar shira. À toi, il est beau et bon de dire Shira, Bayom. Et lecha nae lomar shira balayla. C'est également bon de dire Shira pour toi de nuit. Lama, pourquoi? She'ata achinota maor vashemesh v'ata asita et shnei ha-meorot. She'nemar v'yas elokim et shnei ha-meorot ha-gdolim, etc. Pourquoi est-ce que c'est en quelque sorte bien, bon, de chanter de jour et de nuit? Parce que c'est toi qui as installé, en fait, qui as préparé, tu as installé Maor, la lumière, le Shemesh et le soleil. Et tu as fait les deux Meorot, les deux luminaires. C'est marqué dans le Passouk, effectivement, que Vayas Elohim est Shnei Ameurot Agdoli, les deux grands luminaires. Bien, alors, qu'est-ce que nous dit ce deuxième Midrash? Bon, visiblement, il parle tout entier, il parle de louange. C'est-à-dire que ce qui est cité, ce avec quoi on commence ce paragraphe-là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce paragraphe-là, on ne dit pas qui est l'auteur. Alors, on peut penser que c'est la suite des précédents. Mais dans les précédents, on ne sait pas non plus auquel il faut rattacher celui-là, le cas échéant. Ça a l'air de venir tout seul, en quelque sorte. Lui dit comme ça. Lecha ayom af lecha laila. Et il dit, la fin du verset en question, c'est ce qui est cité plus bas. Ata achinota maor vashemesh. Tu as préparé le maor et le soleil. C'est marqué à la fin, c'est ce qui effectivement va être marqué à la fin du paragraphe en question. Alors lui dit, Agav, bal faresh, resha de kra. Avant cela, il vient expliquer qu'est-ce que veut dire ce lecha yom af lecha laila. C'est quoi ça? Alors il dit, le yom, le jour, il est birshutra, il est en ton pouvoir. Et dit ça, ça vient parce que on sait bien qu'Akadosh Baruch Hu a créé le bien et le mal dans le monde. Et il a créé le bien et le mal pour que l'homme soit en situation de choisir. Memshel et Atov ou Beyom, chez Boaor, le royaume du bien, c'est le jour. C'est le jour où il y a la lumière. Même chez Tara, Balaïla, chez Boachosher. Et le pouvoir du mal, c'est la nuit, les ténèbres, en fait. Akadosh Baruch Hu est appelé Tov, a priori, il ne peut pas associer son nom au mal. Et il peut associer son nom seulement à la Tova, seulement sur le bien. Toutefois, même si effectivement la partie, le mal lui-même, il appartient, c'est-à-dire au travail qu'on fait pour Hachem, c'est-à-dire il s'agit de vaincre le mal, ça fait partie de la Avodat Hachem. Akadosh Baruch Hu a tout créé pour sa gloire, et par conséquent, il va faire payer à ceux qui transgressent. Vous vous souvenez, on avait expliqué ce fameux Midrash, je le dis juste en passant, ce Midrash qui dit que je ne sais pas si Hachem préfère les actions des Rechaïm ou celles des Tzadikim. Vous vous souvenez ? Je ne vois pas si vous vous souvenez ou pas, alors je continue. Et on explique que du point de vue d'Hachem, en réalité, la volonté d'Hachem et la gloire d'Hachem est toujours établie. Parce que ou bien on fait sa volonté, ou bien si on ne la fait pas, on est sanctionné. Donc on dit, je ne sais pas si Hachem, ça lui fait une différence qu'on fasse sa volonté ou qu'on ne la fasse pas et qu'on soit sanctionné. De toute façon, la puissance d'Hachem, la gloire d'Hachem existe dans le monde. Et alors après, le Midrash dit simplement, quand Hachem dit, choisis le bien, alors choisis la vie, alors on sait qu'Hachem préfère le côté de la vie, c'est-à-dire le côté où on fait sa volonté, et pas celui où on est sanctionné pour avoir transgressé les ordres d'Hachem. Et ici aussi, et tout ça, l'existence du mal, c'est là pour servir Hachem. Et comment est-ce que Hachem, comment la gloire d'Hachem, son kavod, se manifeste? Parce qu'il fait payer les rochaïm. Ceux qui transgressent vont payer, vont se sanctionner. Et donc, la mesure du jour et la mesure de la nuit, toutes les deux ont une fonction au service d'Hachem, en fait. Et pas ceux qui pensent que Mishé bara tov lo barara, celui qui a créé le bien, il ne peut pas avoir créé le mal. Et si on dit ça, alors on tombe dans deux divinités, une divinité du bien et une divinité du mal. Parce que si on tient que celui qui a créé le bien ne peut pas créer le mal, alors celui qui a créé le jour doit créer la nuit, etc. Alors, il n'en est rien, bien sûr. C'est toujours Hachem qui crée tout. Et les choses se passent comme je vous ai dit, de toute manière, la gloire d'Hachem se manifeste. Et donc, il dit, maintenant on passe sur les Nissim. On passe à ce qui entraîne la Shira, qui entraîne le chant, qui entraîne la louange d'Hachem, en fait. Donc, on développe donc ce qu'il vient de dire, simplement en termes de Shira. Il ajoute juste que le fameux pasouk qui dit Ashir Yelachem Kelel Itkadesh Chag parle de Pessah, bien entendu, mais on parle du fait que Sancheriv a été puni, en fait. Donc il a perdu la guerre, il était détruit. C'était un soir de Pessah. C'est ça la nuit dont on parle. c'était la nuit de Pessah, que donc on a dit Shira. C'est pour ça que la référence, c'est Ishayahu. C'est la guerre contre Saint-Pierre. Bien. Donc ça, c'est... Vous avez ici, disons, ce que dit le, anciennement le Etz Yosef sur, sur ce Midrash. Quand David HaMelech dit dans les Tehillim qu'effectivement lecha yom af lecha laila, c'est-à-dire qu'en réalité on vient dire ici que le jour et la nuit appartiennent. C'est-à-dire on pourrait penser que la nuit c'est l'absence de jour, là, c'est plutôt les recherche les ténèbres, et que quelque part, c'est un moment d'absence, pas simplement d'absence de lumière, mais d'absence d'Hachem, mais que, qu'il n'y a rien dans la nuit qui contribue à la gloire d'Hachem. Et le chidouche, c'est de dire que si, dans la nuit, on contribue exactement de la même manière à la gloire d'Hachem que de jour, et la preuve, dans ces situations-là, qui sont décrites ici, dans lesquelles, effectivement, Akadosh Baruch Hu fait des nissim pour les Bnei Israël, il en fait de jour, il en fait de nuit, bon, on gagne la guerre pendant la nuit, etc. Donc, c'est toujours... nous pouvons chanter, et nous chantons, dans toutes les situations, nous chantons ta gloire, dans toutes les situations de jour comme de nuit, donc, parce que voilà, tu as fait des nissim de jour comme de nuit. Alors la seule chose qu'on pourrait se demander ici, c'est pourquoi la gloire d'Hachem, si vous voulez, elle est chantée seulement quand il y a des nissim. Pourquoi est-ce que, effectivement, on chante la gloire d'Hachem comme si la gloire d'Hachem n'était pas là, quand il n'y a pas de Nissim? Est-ce que... Et ça, c'était un problème. Parce que, en vérité, on dit le Hallel. Par exemple, on dit le Hallel, effectivement, à des moments particuliers, qui sont pas obligatoirement des nissim. À Sukkot, il n'y a pas de Ness, sauf si on dit que le fait que Akadosh Baruch Hu nous a fait des Sukkot, nous a permis de vivre dans le désert, c'est ça le Ness, en fait. La survie du clan Israël qui sort d'Égypte dans un lieu totalement hostile, eh bien, ça, c'est un Ness. Donc, ce serait à ce titre-là, à ce même titre que Hachem nous a donné la Torah ou qu'il a sorti d'Égypte, c'est pour ça qu'on dit la Shira, on dit le Hallel. Donc, c'est toujours des situations exceptionnelles qu'ils font. Mais la Gemara, elle envisage que quelqu'un dise le Hallel tous les jours. La Gemara dit non, ça, c'est pas bien. On ne peut pas dire le Hallel tous les jours. Alors, chaque jour qu'Hachem fait, comme on dit, c'est un jour extraordinaire, c'est une possibilité de faire la volonté d'Hachem, c'est une possibilité de servir Hachem. Pourquoi est-ce que bon, on devrait chanter en permanence? D'ailleurs, au Beit HaMikdash, quand on apportait les korbanot, on chantait. Dans la Avodat Hachem, on chante. Ici, on parle essentiellement de ce qui nous entraîne à chanter la louange d'Hachem. Mais c'est toujours des situations dans lesquelles on chante parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est un S. On parle d'Enissim. Le Shachata Oselan Onissim Bayom. Les exemples qui nous sont donnés, sont systématiquement des exemples de Nissim. Sauf qu'à la fin du Midrash, le Chanael Omar Shira Bayom, Chanael Omar Shira Balaila. Ultimement, on n'a pas besoin de Nissim. Ultimement, il faut comprendre que la louange d'Hachem, on peut la dire de jour et de nuit. Pourquoi? Parce que Achinota Maor Vashemesh. Parce que tu nous as donné ces deux grands luminaires. Et donc, le fait qu'Hachem nous ait donné ces luminaires, c'est ça qui normalement devrait nous entraîner. Donc, un luminaire pour le jour et un pour la nuit, donc, qui devrait nous entraîner, enfin, qui doit nous entraîner à dire Shira, de jour comme de nuit, et sans faire appel à des nissim, sans que ça corresponde obligatoirement à des situations tout à fait hors du commun. On pourrait dire non, c'est tout, c'est. Donc les deux meorot, ce qui a fait le jour, qui fait cette différence entre le jour et la nuit, enfin qui indique cette différence de jour et de nuit, enfin, les deux en fait sont aussi bien porteurs l'un que l'autre de la gloire d'Hachem, puisque comme on a dit, même si tu dis que la nuit, c'est Rocher, et c'est le domaine, ça peut apparaître comme étant le domaine du mal, c'est aussi un moyen de servir Hachem, parce que finalement, ça sert à la gloire d'Hachem, puisqu'on va sanctionner les transgressions qui correspondent à ce Rocher. Donc, ultimement, c'est comme si ce Midrash disait ben finalement, c'est comme on dit en français, être heureux d'être au monde et d'y voir clair. C'est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. D'accord ? Hachem il a montré que quoi qu'on fasse, ultimement, il y a la gloire d'Hachem qui se manifeste. C'est-à-dire qu'à la limite, même contre notre volonté, même si quelqu'un veut faire du mal, eh bien, la sanction qui le frappera, elle sert à manifester la grandeur d'Hachem. Et donc, elle justifie, en fait, la louange d'Hachem. Hachem fait, il a créé un monde qui est entièrement pour sa louange. Et de toutes les manières, en quelque sorte. Et ça, c'est réjouissant parce que, quelque part, on peut se dire que même si je me suis cassé la figure à un moment ou à un autre, ben, involontairement, à ce moment-là, j'ai quand même produit de la gloire divine. C'est ça que, en fait, c'est pas qu'on ne nous incite pas à transgresser, bien sûr, mais ça veut dire que une des parties de enfin, ce qu'on peut sortir, tirer de ce qui nous est arrivé, en fait, y compris quand ce que nous avons fait n'était pas vraiment une bonne chose, finalement, on aura quand même servi à la gloire divine. Donc, ça c'est finalement, le but est toujours atteint, d'une manière ou d'une autre. Hachem nous dit, je préfère que vous choisissiez la voie qui est bonne pour vous. Mais en réalité, Hachem a créé le monde pour sa gloire et sa gloire. Elle a toujours lieu, en fait. C'est ça qu'on vient ajouter. Et ça, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça, c'est donné sans auteur. On ne voit pas de Rav qui intervienne, alors que d'ordinaire, on dit toujours que c'est celui-ci ou celui-là qui a parlé. Et ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, que ce soit dit ici de façon... comme si la chose allait de soi, que... Bon, c'est bien... D'ordinaire, dans les Mishnayot, quand on dit une Stam Mishnah, Ça veut dire qu'une Mishnah qui n'a pas de où on ne mentionne pas quelqu'un en particulier, ça veut dire que ça fait un consensus.
Ou alors,
donc ça aussi, semble-t-il.
C'est ou un alors, consensus. Peut-être pour ne pas s'associer à une datadine.
De quoi que?
Pour ne pas s'associer à une datadine.
Mais c'est la louange, c'est pas la midatanine.
Mais la nuit, je ne peux pas parler de Nart ou Nebel, mais enfin bon. Hein. On pense à Nart ou Nebel.
Oui, mais c'est, de toute manière, ça aussi, c'est la gloire d'Hachem.
On va pas faire à l'aile le 30 janvier.
Justement, c'est de penser que Nart ou Nebel, c'est le côté vu des hommes. Quoi. C'est tout un travail. De savoir que ça aussi, ça doit contribuer. C'est ce que dit le Midrash ici. Ça aussi, ça contribue à la gloire d'Hachem. Tout contribue à la gloire d'Hachem. C'est justement y compris les choses qui apparaissent comme allant dans l'autre sens. Nebel, c'est sûr que ça semble être autre chose. Mais ultimement, c'est quand même toujours la gloire d'Hachem. Et ça, c'est bien sûr que c'est difficile à comprendre. Voilà, on s'arrête là.
Verklärtenart, Kristallnart.
Oui, mais c'est ce qu'on a dit. La nuit, ça apparaît comme le domaine du mal. Mais ce domaine du mal, c'est aussi un lieu de la louange. Parce qu'ultimement, il y aura sanction du mal.